RMC Intégral Tour, Mathias Fernandez.
L'intégral tour jusqu'à 21h. On va vous accompagner cet été tout au long des 3 semaines, que vous soyez sur la route des vacances ou pas, avec un programme très alléchant tous les jours. Et ça commence aujourd'hui, évidemment. On retournera du côté du Tour de France et d'Utrecht aux Pays-Bas avec Cyril Guimard. Le rendez-vous quotidien, c'est à 18h pour revenir sur cette première étape. Les experts F1, évidemment, parce que ce week-end, c'est le Grand Prix de Silverstone. Et puis l'athlétisme. Ce soir, le meeting à Areva au Stade de France avec des records du monde en danger. Mais d'abord, comme tous les soirs, 18h05 sur RMC, le journal des sports avec Guillaume Laniel. Guillaume, bonsoir.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Alors ça y est, c'est parti pour cette 102e édition du Tour de France.
Eh ouais, on n'a pas pu y échapper. Hein. Première étape, un contre-la-montre individuel de 13 km 800 dans les rues d'Utrecht. À Utrecht, où nous rejoignons Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
On attendait sur cette première étape Martin Dumoulin en Cancellara. C'est finalement le méconnu australien Rohan Dennis qui s'empare du premier maillot jaune.
Méconnu, mais tout de même, on savait que Rohan Dennis était un redoutable rouleur de contre-la-montre. Il avait détenu le record du monde de l'heure pendant 2 mois en février dernier. Il avait tout de même remporté le contre-la-montre du dernier Dauphiné libéré et puis avait terminé deuxième du prologue de Paris-Nice. C'est donc un redoutable rouleur qui a su aujourd'hui montrer à tous les cadors de la spécialité eh bien qu'il faisait lui aussi partie désormais des grands monsieur du chrono, puisque Tony Martin, l'Allemand, ancien champion du monde, termine deuxième avec un retard de 5 secondes. Cancellara est troisième à 6 secondes et Tom Dumoulin, malgré tous les encouragements des Néerlandais, termine quatrième avec un retard de 8 secondes. Voilà donc pour le classement de cette étape, Guillaume. Mais on va évidemment s'intéresser aussi au classement des grands leaders et évidemment parler de l'énorme performance réalisée aujourd'hui par Thibaut Pinot, le jeune Français, troisième du Tour l'an dernier, qui, on le disait, n'était pas un grandissime spécialiste du chrono. Et bien aujourd'hui, il a tout simplement battu les 4 fantastiques, puisqu'il met 2 secondes à Nibali, 9 secondes à Chris Froome, 17 secondes à Contador et 20 secondes à Quintana. Alors certes, il n'est pas encore vainqueur du Tour, mais en tous les cas, il fait partie désormais des 5 fantastiques. Ils ne sont plus 4, ils sont désormais 5.
Et on l'écoute, le Français Thibaut Pinot, satisfait évidemment de son entame de Tour de France. Il est au micro de Pierre-Yves Leroux.
Je me suis bien senti, c'est vrai que ce matin quand j'ai découvert le chrono, il m'a plu tout de suite. Malgré qu'il soit tout plat, moi ce que j'aime bien c'est l'idée Fournier. Et ça c'est un beau chrono de spécialiste. C'est un chrono que j'aime bien, c'est roulant, rectiligne, donc là on peut vraiment développer sa bonne puissance. Voilà, je voulais juste me rassurer, voilà, je suis dans les temps, c'est bien.
Voilà, Thibaut Pinot, on en reparlera bien sûr avec Cyril Guimard qui sera avec nous à 18h20 pour débriefer cette première étape du Tour de France. Le tennis et la fin du troisième tour de Wimbledon, Guillaume.
Et on rejoint Eric Salio sur place pour RMC. Salut Eric.
Salut.
Et on va faire le point évidemment sur les matchs en cours et sur le cours numéro 3. C'est très très chaud, la fin de la quatrième manche en ce moment entre le Français Joe Wilfried Tsonga et Ivo Karlovic.
Ouais, le Français qui se crée une balle d'égalisation à 2-7 partout dans le tie-break du quatrième. Il a sauvé 2 balles le match, hein, Tsonga, dans ce jeu décisif. Mais Karlovic sort l'arme fatale, un ace, le numéro 42. Ah, l'ailette. Donc deuxième chance, c'est peut-être un signe du destin pour le Français, parce qu'elle était vraiment intouchable pour le Français. Donc on rejoue le point, 9 points à 8 pour Tsonga dans ce tie-break du quatrième set. Il a perdu les deux tie-break, le numéro 1 et le numéro 3. Voilà pourquoi il est dans une situation très délicate, le Français. Donc balle de set pour Joe avec Karlovic au service. La première dedans, le retour et out. 9 points partout. Donc les joueurs tournent, on a un peu de temps devant nous, mais le Français a sauvé 2 balles de match, mais on est vraiment en sursis.
Et c'est le troisième tie-break, on le rappelle, dans ce match entre Ivo Karlovic et Joe Wilfried Tsonga. Rapidement, pendant que se déroule, Eric, la fin de cette quatrième manche, c'est passé aujourd'hui pour l'un des favoris, Roger Federer. En revanche, le tombeur de Rafael Nadal, Dustin Brown, lui, est sorti du tournoi.
Ça se vérifie souvent quand vous battez Rafael Nadal, il y a eu tellement d'émotions que le lendemain ou le surlendemain vous passez à la trappe, et il a été battu par un très bon Viktor Troicki qui revient vraiment au plus haut niveau, le Serbe, après sa longue suspension. Victor en 4 manches de Troicki. Pour Federer, ça a été relativement simple, Victor en 4 manches aussi face à Samuel Gross, l'un des plus gros serveurs du circuit, 6-4, 6-4, 6-7, 6-2. On sait que Federer jouera lundi Bautista, alors que Troicki lui attend son adversaire, et ça pourrait bien être un Anglais, pas celui qu'on croit, pas celui qu'on connaît, mais James Ward, qui mène 2 manches à 1 face à Pospisil.
On en est où pour conclure, Eric, sur Tsonga Karlovic, quatrième manche?
ben ça reprend, 9 points partout, c'est qu'à on tourne tous les 6 points dans les tie-breaks, donc ils ont eu le temps de boire un coup. C'est Karlovic qui est au service, peut-être va-t-il se créer une balle de match, voilà, troisième balle de match à venir pour Ivo Karlovic, une deuxième balle mal négociée par Joe Wilfried Tsonga qui n'a pas été du tout en réussite hein, dans ce secteur de jeu, mais bon, c'est pas son sa force principale, mais si Karlovic s'impose, eh bien Joe n'aura pas perdu son service du match. Et oui, c'est souvent le cas face à Karlovic, il faut être opportuniste, il ne l'a pas été pour l'instant. Donc balle de match à sauver pour Joe, la numéro 3, il est au service hein. Ça c'est très important, il faut s'appuyer sur une première, elle est faute la première. Attention, gros danger parce que Karlovic il va lâcher le bras, c'est évident, avec ses 2m08, il a une force de frappe extraordinaire. Peut-être va-t-il se décaler. Il se décale avec son coup droit. Il lâche une grosse mine. Oh là là, il y a un coup droit penalty pour Karlovic. Voilà, c'est gagné pour le Croate. Éliminé le Français Joe Wilfried Tsonga. C'est le même scénario qu'en 2009. Victoire en 4-7 d'Ivo Karlovic. 7-6, 4-6, 7-6, 7-6. Il finit, je crois, à 42 aces.
Merci Eric, on te retrouve évidemment tout au long de la soirée avec notamment un très alléchant mon fils Simon.
On change de verre du tennis au golf, l'Open de France du côté de Guyancourt.
Ouais, on disputait le troisième tour du tournoi aujourd'hui. Hein. Damien Gauffioso est sur place pour RMC. Bonjour Damien. Bonjour Damien, est-ce qu'il est avec nous sur l'Open de France de golf?
Oui,
Damien,
oui, je vous entends.
La victoire qui s'éloigne hein, malheureusement pour le Français Victor Dubuisson.
Ah, qui s'éloigne un petit peu puisque Victor Dubuisson a alterné le bon et le moins bon cet après-midi. Ça a commencé par un bogey dès le premier trou, puis un second au trou numéro 6. On a alors vu un Dubuisson agacé, mais il s'est bien repris ensuite. Trois birdies consécutifs au trou 9, 10 et 11 et une carte à moins 2 finalement. Un score total de moins 6. Il est quatrième, ça sera un petit peu compliqué puisque le premier est à moins 10, mais Dubuisson peut toujours y croire ce soir.
Et on l'écoute tout de suite, Victor Dubuisson, après cette troisième journée de compétition.
Ça a très bien joué aujourd'hui, pourtant le parcours reste très difficile. Mais bon, demain seulement une très très bonne journée, un très bon démarrage, je pourrais me donner une chance. Ça se joue tellement à peu de choses sur ce parcours, c'est tellement exigeant que demain je vais simplement essayer de faire mon mieux comme j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, il faut le petit truc qui fait la différence.
Victor Dubuisson, dernière journée demain évidemment, on la suivra. Le foot ce soir, les yeux tourné vers le match au sommet du côté de Santiago du Chili.
Avec la finale de la 44e édition de la Copa América, l'Argentine qui n'a plus remporté le moindre trophée depuis 93 affronte le Chili qui n'a jamais gagné la compétition. Coup d'envoi de cette rencontre à 22h à suivre en fil rouge sur RMC. Les infos mercato, c'est avec Benjamin Gles. Salut Benjamin.
Et salut Guillaume.
Et Kevin Trapp qui se rapproche un peu plus du Paris Saint-Germain.
Là, c'est une info RMC. Le prometteur gardien allemand Kevin Trapp, 24 ans, a donné son accord pour s'engager pour 5 ans avec le club de la capitale. Les derniers détails du transfert qui avoisinerait les 9 millions d'euros doivent être réglés ce week-end. Il s'agira de la première recrue du PSG, tout juste débarrassée des sanctions du fair play financier. Wissam Ben Yedder, de son côté, pourrait atterrir au FC Séville, double vainqueur en titre de la Ligue Europa. Le transfert de l'attaquant du TFC en contrat jusqu'en 2017 avoisinerait les 10 millions d'euros, selon le quotidien espagnol AS. Pressenti à Marseille, Idrissa Gueye va finalement quitter Lille pour Aston Villa. L'international sénégalais va réaliser une très belle opération financière. Son salaire mensuel passerait de 90 000 à 250 000 euros mensuels. Le contrat de 4 ans estimé à 9 millions d'euros ne devrait être officialisé qu'au milieu du mois de juillet. Et puis enfin, la Turquie pour Lucas Podolski et Robin Van Persie. L'attaquant allemand a signé aujourd'hui avec Galatasaray. De son côté, Van Persie devra opter pour Fenerbahçe. The Guardian parle d'un contrat de 4 ans pour le mancunien.
Merci Benjamin. On va se régaler ce soir à suivre sur RMC. Le meeting arriva au Stade de France, Guillaume.
Ça c'est une certitude. Un meeting comptant pour la Ligue de Diamants qui va débuter dans une petite demi-heure désormais. Avec, vous le savez, en l'absence d'Usain Bolt, un athlète qui va faire l'objet de toutes les attentions, c'est le perchiste français Renaud Lavilloni, le recordman du monde qui n'a jamais passé 6 mètres sur ce meeting, ne vient pas pour faire de la figuration.
Il y a de l'ambition, hein. Je suis pas là pour me contenter d'un saut et de repartir chez moi. Maintenant, après, le coup de folie, s'il vient, ce sera vraiment bon signe et j'espère être en mesure de le faire. Mais la priorité déjà en tout, c'est de pouvoir gagner.
Renaud Lavilloni avec Vincent Delzesco.
Et on en reparlera à 18h50. On sera en direct du Stade de France avec François-Xavier de Châteaufort. Et évidemment, le meeting, on va le suivre tout au long de la soirée sur RMC. La F1 Pour terminer, Guillaume, évidemment, ce week-end, le Grand Prix de Silverstone.
Oui, vainqueur à deux reprises sur ce parcours, Lewis Hamilton partira dimanche en pole position. Louis Amar est sur place pour RMC. Salut Louis.
Salut Guillaume.
Déjà une huitième pole position pour Hamilton, toujours aussi impressionnant.
Ouais, et pourtant, il avait semblé un peu en difficulté hier, hein, avec une quatrième place seulement sur la deuxième séance d'essai libre, mais il a été cet après-midi plein de maîtrise et a signé un temps canon pulvérisé, celui de la pole de l'année dernière de près de 3 secondes, un temps, c'est vrai, réalisé sur une piste encore un peu humide. Hamilton pouvait donc lever les bras, le sourire large, saluer ce public, ses 110 000 personnes toutes acquises à sa cause. 20e pole position consécutive pour Mercedes, la 46e de la carrière de Lewis Hamilton, mais en Angleterre, peut-être plus qu'ailleurs, la pole ne garantit pas le succès, le Britannique qu'on est conscient, qui a de nouveau souligné tout à l'heure l'importance de prendre un bon départ.
Tu l'as rencontré d'ailleurs, Louis, hein, Lewis Hamilton, et vous allez l'entendre, le Britannique va désormais aborder les choses différemment.
Yes, I had a lot of meetings with my guys.
Oui, j'ai eu beaucoup de réunions avec mon équipe, on s'est beaucoup parlé au téléphone, surtout après la dernière course. On a analysé beaucoup de choses. Et puis j'ai revu mes ingénieurs qui m'ont donné des statistiques et m'ont dit qu'on devait faire comme ça. Mais moi, dans mon cœur, je pensais qu'on devait faire autrement. En fait, les quatre dernières courses, j'ai suivi leurs statistiques. Mais cette fois, je vais suivre mon intuition. Et j'espère que ça sera la bonne réponse.
Ça s'est nettement moins bien passé, Louis, pour le Français Romain Grosjean.
Une journée compliquée pour Romain Grosjean qui l'avait dit, il savait que ce serait très dur d'entrer dans le top 10, d'ailleurs son coéquipier Pastor Maldonado non plus n'y est pas parvenu, il s'élancera quatrième. Il n'était pas abattu pour autant Romain Grosjean parce qu'il faut dire que de manière générale depuis le début de la saison les Lotus se comportent plutôt mieux en course qu'en qualif, il espère donc toujours entrer dans les points demain.
Romain Grosjean qu'on suivra évidemment demain comme tous les autres, le Grand Prix de Grande-Bretagne à suivre avec toi Louis, avec Jean-Luc Roy, Patrick Tambay en intégralité demain à partir de 14h sur RMC.
Et puis un dernier mot de rallye cette fois-ci avec Sébastien Ogier, toujours patron en rallye de Pologne, l'issue de la 14e spéciale, le champion du monde en titre devance Andreas Mikkelsen et Ott Tanak.
Merci Guillaume, on te retrouve 19h pour faire un petit point encore plus complet sur l'actualité sportive. Dans un instant, on va partir du côté d'Utrecht, aux Pays-Bas, avec Cyril Guimard pour revenir sur cette première étape, ce contre-la-montre et ce premier maillot jaune, l'Australien Juan Dennis. Mais on est partout dans l'intégrale Tour sur RMC. On va aller du côté de Lyon, du côté du Stade Gerland, retrouver Édouard G pour le jubilé, Lionel Dallet, Sébastien Chabal. Bonsoir Édouard.
Bonsoir Martial, bonsoir
et
à tous.
Et tu es bien accompagné Édouard.
Oui, je suis bien accompagné avec Sébastien Chabal, mais pour tout vous dire, 18h15, 18h20, on pensait pas l'interviewer. Bah, c'est Sébastien lui-même, tout simplement, parce que voilà, le jubilé, Sébastien, s'est arrêté un petit peu plus tôt que prévu. Aïe.
Ouais. C'est, il est pas terminé. Il est pas terminé pour moi. Pour moi, sur le terrain, il s'est terminé. Il y a déjà un bon quart d'heure. Je pense que je me suis rompu les ligaments croisés, donc. Voilà, c'est dommage parce que je peux pas passer un peu plus de temps avec mes copains sur le terrain, mais je préfère très honnêtement que ça m'arrive à moi que ça arrive à un joueur en activité. Voilà, moi mes croisés, j'ai le temps de ça j'en ai pas trop besoin dans la vie de tous les jours, donc voilà, il y en a plein d'autres pour qui ça aurait été beaucoup plus dramatique.
On veut rester positif ? Tu veux rester positif ?
Oui, bien sûr, mais parce que c'est une belle fête, parce que c'est un beau moment, parce qu'on voit que sur le terrain il y a de l'enthousiasme et que ça s'amuse et que c'est le sport. Voilà, j'ai connu des moments comme ça pendant ma carrière et aujourd'hui ça m'empêchera pas de vivre demain. Donc voilà, soyons positifs, continuons à nous amuser. On a perdu le score là juste avant la mi-temps, donc on va essayer d'aller le rechercher pour essayer de gagner ce match.
Voilà Sébastien Chabal avec un gros strap sur le genou gauche, donc suspicion de rupture des ligaments croisés donc de ce genou, mais la tête toujours sur le terrain pour son jubilé avec celui de Lionel Nallet qui continue ici au stade de Gerland. C'est la mi-temps.
Et on rappelle Edouard que ce sont les amis de Nallet et Chabal qui jouent contre les Barbariens de Français, hein, c'est ça.
Exactement. Et pour l'instant la mi-temps pour les Babaz mène 21 à 17, 40 degrés presque à l'ombre, hein. 40 degrés sur Gerland, mais ça n'empêche pas du jeu.
Merci beaucoup Édouard G. Nous dans un instant on file du côté d'Utrecht aux Pays-Bas, retrouver Cyril Guimard pour revenir sur cette première étape du Tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h22 sur RMC, l'intégral Tour, et on part tout de suite du côté d'Utrecht aux Pays-Bas, et ce sera comme ça pendant les 3 semaines du Tour de France. À 18h20, on sera avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril. Cyril, tu es là Cyril?
Oui, je suis là. Ah, je vous entends.
Très bien, on t'entend aussi. Cyril, pour revenir sur cette première étape et ce premier maillot jaune, un Australien, Rowan Dennis, qui a gagné ce contre-la-montre de 13 km 800. À la barbe des favoris, Tony Martin, qui termine deuxième à 5 secondes, Fabian Cancellara à 6 secondes et Tom Dumoulin, quatrième à 8 secondes. On va commencer par le maillot jaune, Cyril, avant de parler des favoris du classement général. Rowan Dennis, c'est pas forcément celui qu'on attendait, mais qui a quand même des références dans cet exercice.
Bien, ça n'est pas c'est pas celui qu'on attendait, c'est vrai. Mais d'un seul coup, en regardant d'un peu plus près, bien on se rend compte un qu'il a battu le record du monde de l'heure au mois de février, qu'il a remporté le Tour d'un Under en remportant le contre-la-montre, qu'il a remporté il y a quelques semaines le contre-la-montre du Dauphiné libéré, qu'il avait terminé deuxième du prologue de Paris-Nice. Et on le découvre véritablement à ce niveau-là depuis le début de l'année. On ne pensait pas qu'il était capable de dominer des champions comme Tony Martin, comme Cancellara, comme Dumoulin qui arrive. Ben, il n'a que 25 ans, il est tout simplement en train de s'affirmer et il devient la révélation de ce Tour de France.
Et il gagne à une moyenne record de 55 km/h 446.
Oui, c'est vrai, 55. On peut dire que les quatre premiers ont tourné à plus de 50, oui. À plus de 55 sur un parcours, c'est vrai. Il n'y avait aucune difficulté en dehors de virages, mais qui étaient des virages qui se prenaient quand même très très vite, et puis à certains moments un petit vent un petit peu favorable, ce qui explique la moyenne. S'il y avait eu un petit col, ça aurait été sûrement beaucoup moins vite, mais vraiment très très belle performance de cet Australien. Et on peut dire aussi d'ailleurs que Tony Martin, Cancellara et Dumoulin n'ont pas déçu, ils ont été présents au rendez-vous, mais ils sont tombés sur plus fort et plus jeune qu'eux.
Alors les favoris ou les outsiders de ce Tour de France 2015, avec la bonne surprise venue de Thibaut Pinot, Cyril, qui se classe devant les quatre favoris de cette épreuve, puisque lui, il a perdu 41 secondes, Thibaut Pinot, sur le maillot jaune. Oui, Nibali en a perdu 43, Froome 50, Contador 58 et Quintana 1 minute et 1 seconde. Ça veut dire que Thibaut Pinot a pris du temps sur tout le monde.
Oui, c'est vrai. Thibaut Pinot réalise une très belle performance. Une performance qui était dans ses objectifs et dont on pensait qu'il pouvait réaliser. Et je le dis pas par rapport à Nibali, Froome, Contador ou Quintana, mais par rapport au grand rouleur. Il a perdu 41 secondes, ce qui veut dire et ce qui confirme qu'il s'est rapproché auprès des grands rouleurs à 30 secondes par tranche de 10 km, ce qui est une base de référence pour nous. Donc 30 secondes sur 10 km, ça veut dire qu'il confirme ses progrès depuis un an. Donc Thibaut Pinot réalise la meilleure performance qu'il pouvait réaliser sans faire un exploit extraordinaire. Ce qui est en revanche beaucoup plus surprenant, ce sont les contre-performances,
les autres, ouais.
De Nibali, de Froome, de Contador, et je dirais un degré moins de Quintana, parce que Quintana, on ne l'attendait pas mieux que cela. Et on a vu au niveau du style, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il n'est qu'à 20 secondes de Pinot. Lui, il est dans ses temps. Mais Contador a eu énormément de mal à finir les 300 derniers mètres de la ligne d'arrivée. Il grimaçait de partout. Visiblement, il n'est plus aussi aérien qu'il l'était sur le Tour d'Italie. Froome n'est pas à son niveau. Froome, normalement, il doit être à 10 ou 15 secondes de Tony Martins ou de Cancellara. Nibali, j'ai envie de dire, il est quelque part dans son registre. Mais c'est plutôt une contre-performance des quatre favoris. Ce qu'on appelle les fantastiques, eh bien hier, je disais, attendez avant de dire les fantastiques, on dira que ce sont des fantastiques après l'arrivée du Tour de France. Ben aujourd'hui, ils n'ont pas été fantastiques du tout.
Et le fantastique aujourd'hui, c'était Rowan Dennis, donc l'Australien maillot jaune. Demain, une étape de plat, 166 km entre Utrecht et Zélande, Cyril. Mais Christian Prudhomme a prévenu tout le monde, risque de bordure, il y aura beaucoup de vent. Ça sera le danger.
Oui, menace de vent en mer du Nord, puisque la course va longer la mer du Nord, et même, vous savez, ici aux Pays-Bas, de temps en temps, eh bien, on s'engage, les voies routières s'engagent au-dessus de la mer. Alors c'est vrai que s'il y a un vent de force 5 venant du nord-ouest, eh bien, on va retrouver peut-être quelques hommes à la mer. Donc, il faudra faire très attention. C'est une étape qui qui est très piégeuse, parce que bien sûr, lorsqu'on est au bord de la mer, eh bien, il n'y a pas les forêts pour nous protéger. Il risque d'y avoir des coups de bordure et il risque peut-être d'y avoir des victimes au niveau du classement général.
Merci beaucoup Cyril, on te retrouve évidemment dans à 19h aussi du côté d'Utrecht avec toute la Dream Team.
Ah, je suis toujours présent, il n'y a pas de vent pour nous.
Il n'y a pas de vent, grand braquet déjà Cyril, t'es parti déjà. Très fort sur ce Tour de France. À tout à l'heure Cyril, nous sur RMC évidemment on se prépare ce soir pour un grand meeting d'athlétisme au Stade de France avec notamment Renaud Lavillenie qu'on va suivre tout au long de la soirée. Puis dans un instant, les experts F1, la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
Et 18h30 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'Intégral Tour, votre rendez-vous pendant 3 semaines, pendant ces 3 semaines du Tour de France, mais on va parler de tous les sports et on va faire un petit tour en Angleterre avant de parler de la Formule 1 et du Grand Prix de Silverstone. On va partir du côté de Londres et du tournoi de Wimbledon avec Eric Salio. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Eric, déjà la première nouvelle, pas franchement bonne pour le tennis français, c'est que Joe Wilfried Tsonga n'a pas su prendre le service de Karlovic. J'ai envie de dire, il a perdu.
Bah, il a pris une fois, mais ça n'a pas suffi.
Deuxième set, tu as raison.
Parce que il perd ses 3 tie-breaks, donc le score, hein, 7-6, 4-6, 7-6, 7-6. Et sur le troisième, celui du quatrième set, il y a un gros regret sur la première balle de set, puisque sur Internet, peut-être que on peut s'en apercevoir, il y a une polémique sur une volée de Ivo Karlovic qui semble être doublée dans la raquette. Alors c'est à l'œil nu et à vitesse réelle, c'est vrai que c'est dur à trancher pour l'arbitre, mais quand on voit le ralenti, on voit bien qu'Ivo Karlovic touche deux fois la balle. Et si l'arbitre avait pris ses responsabilités,
avait vu, avait demandé quelque chose ou s'en était
mais
pas
Joe rendu. A regardé l'arbitre, ouais. Je me souviens très bien de cette action. Il regarde l'arbitre parce que lui, il sent qu'il se passe quelque chose. Karlovic, l'arbitre n'a peut-être pas pris ses responsabilités. Alors il y a la règle qui dit que si le geste est effectué dans la continuité,
dans le même
mouvement, il n'y a rien d'illégal. Ouais, mais c'est vrai que quand on revoit le ralenti, c'est flagrant et serait permis à Joe de revenir à deux manches partout. Voilà, on va pas refaire l'histoire. C'est une élimination, c'est comme en 2009, c'est quasiment le même scénario. Il a encaissé 41 aces dans le buffet. Karlovic a été meilleur dans les tie-breaks. Joe n'a pas été efficace sur les retours de service. Il y a eu des occasions où sur des deuxièmes balles, il devait engager le jeu, faire jouer son adversaire. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une élimination évidemment cruelle. Karlovic était le plus fort et c'est lui qui affrontera peut-être lundi Andy Murray. C'est dommage parce que Tsonga Murray, à quelques jours de la Coupe Davis, c'était un petit clin d'œil assez sympathique. Mais il n'y aura que deux Français lundi en huitième de finale, Richard Gasquet et le vainqueur du match entre Gaël Monfils et Gilles Simon. Alors, quand ce match va-t-il débuter? Impossible à dire. Sauf que James Ward et Pospisil, qui sont actuellement sur le court numéro 1, sont dans la quatrième manche. Ward mène deux manches à une, mais 5-2 au quatrième pour Pospisil. Donc, Gilles et Gaël vont devoir s'armer de patience, à moins que les ordinateurs ne décident de déplacer ce match, puisque vous connaissez la règle ici, demain on ne joue pas. Et il faut absolument que les Anglais bouclent leur programme ce soir pour qu'on ait l'intégralité des huitièmes de finale lundi. Donc il y aura peut-être un changement de cours dans les minutes à venir pour Gilles et Gaël.
Eh ben, je sais pas quelle heure c'est, toi non plus Eric, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on le suivra évidemment tout au long de cette soirée sur RMC. À tout à l'heure. On reste en Angleterre. On part du côté de Silverstone pour la F1.
RMC, les experts F1.
Les experts et le retour sur les qualifications du Grand Prix de Silverstone avec une première ligne 100% Mercedes, ça c'est pas vraiment une info avec un air de déjà vu. Lewis Hamilton devant Nico Rosberg. Jean-Luc Roy nous a rejoint. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
On a suivi avec toi évidemment les essais, les qualifications cet après-midi sur RMC. Louis Amar en direct de Silverstone, bonsoir Louis.
Bonsoir à tous, salut messieurs.
9e Grand Prix de la saison, messieurs. 8e pole position pour Lewis Hamilton. C'est d'ailleurs la 20e fois consécutive qu'une Mercedes est devant au départ d'un Grand Prix. Et c'est vous dire si c'est varié. Petit écart entre Rosberg et Hamilton, entre Hamilton et Rosberg, 113 millièmes. Jean-Luc, pas grand-chose, mais encore une fois,
Hamilton devant.
Eh oui, une seule fois jusqu'à présent, depuis le début de la saison, Nico Rosberg est parvenu à le devancer, donc c'était en Espagne, et malheureusement cette fois pour lui, encore une fois, eh bien, il s'est loupé dans le deuxième secteur, semble-t-il, si on se réfère au temps intermédiaire, c'est là qu'il a perdu un petit peu plus d'un dixième de seconde, et on le retrouve, 113 millième, c'est vraiment rien, c'est un souffle, mais ce qui compte, c'est de partir devant, alors il sera du bon côté de la piste également, donc on a vu, ceci dit, on s'en rappelle en Autriche, que Nico était capable de prendre peut-être un meilleur départ que Lewis Hamilton.
Et ben justement, ce départ, Louis, qui est allé voir tout à l'heure Lewis Hamilton, lui a posé la question à Lewis Hamilton, lui qui était en pole il y a deux semaines en Autriche, qui avait raté son départ. Est-ce qu'il va y penser à ce départ raté demain après-midi ?
Non, je vais retourner voir mes ingénieurs, regarder quelques statistiques, prendre des notes, et puis je vais couper un peu. Mes chiens sont de retour dans mon motorhome, donc je vais jouer un peu avec eux ce soir, me préparer un bon dîner, regarder un peu la télé, je vais me relaxer tout simplement. Et puis demain je reviendrai, je rassemblerai mes énergies, j'affinerai ma stratégie, et je me concentrerai bien. Bien sûr le départ sera très important, j'ai besoin d'un bon départ, j'ai fait quelques changements depuis l'Autriche, je pense que ce sont les bons, et j'espère que ça sera pareil demain.
Voilà, Lewis Hamilton qui va jouer avec ses toutous, Louis, il est comme à la maison le Britannique, évidemment, à Silverstone.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et il a reçu un accueil vibrant, magnifique du public de Silverstone, déçu évidemment des performances de l'autre grand Britannique du coin, c'est Jenson Button qui lui a été éliminé en Q1. Mais donc quand Hamilton a terminé sa séance de qualification, on l'a vu lever les bras, sourire, et il nous a dit tout à l'heure, il nous a confié avoir été extrêmement ému par le bruit, les hurlements de ces 110 000 personnes qu'il a senti le porter.
Il y en a un qui a des regrets, c'est Nico Rosberg, qui a quand même une petite explication sur cette deuxième place.
J'ai perdu le grip sur mon pneu avant gauche, mais vraiment fortement, donc un truc vraiment étrange. Je sais pas ce qui s'est passé, il faut qu'on analyse ça. C'était dommage parce que j'étais très proche jusqu'à mi-tour, j'y étais pour pouvoir attaquer la pole. Donc je sais pas, peut-être même c'est le vent, à voir. Le départ, ça va être intéressant ici. Ici, on n'a pas trop travaillé parce que sur ce circuit-là, t'as pas le droit de faire les départs à la sortie des stands, juste à la fin des séances. Donc on n'a pas fait beaucoup de départs jusqu'à présent, mais ça va faire plus intéressant.
On va voir ça demain, ce premier virage, on l'attendra avec impatience, Jean-Luc.
Ça c'est clair, c'est là qu'il était parvenu à gagner le Grand Prix d'Autriche, justement en devançant Lewis Hamilton. Alors effectivement c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai qu'il y a intervention de l'équipe au moment du départ, et c'est ce qu'on veut supprimer également, puisque tu sais qu'il y a tout un train de mesures qui a été annoncé par la FIA, pourvu qu'ils les mettent en application, qu'ils aillent au bout, notamment la réduction également des ordres et des consignes données aux pilotes. On se bat contre ça, moi je suis pour l'interdiction totale de la radio, et là, l'interdiction totale de l'aide au démarrage. Enfin, c'est ahurissant qu'un pilote ne soit pas lui-même totalement responsable de sa mise en route. Et là, on a revenu, on l'a évoqué tout à l'heure, pour Hamilton, je crois qu'il a repris l'embrayage de 2014, pour te dire le système d'embrayage qui lui permettrait, semble-t-il, de partir mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent en 2015.
Et alors, mieux, même, oui. Excuse-moi Martial, Lewis Hamilton a dit tout à l'heure quelque chose d'assez incroyable, qui nous a laissé un peu pantois, il faut le dire. Il nous a dit qu'il travaillait énormément, bien sûr, avec ses ingénieurs, et que depuis quelques semaines, ce sont ses ingénieurs qui lui conseillaient de partir comme ça, c'est-à-dire en étudiant des statistiques, des datas extrêmement précis. Et Hamilton disait « Ouais, mais moi je le sens pas, c'est pas mon intuition, c'est pas mon cœur. » Et il nous a dit « Depuis l'Autriche, j'ai décidé que j'allais partir comme je le pensais, comme je le sentais, avec mon intuition, avec mon cœur. » Et semble-t-il, ça marche.
Alors la grille, ça nous donne Mercedes, Williams, Ferrari, Hamilton, Rosberg en première ligne. En deuxième ligne, les Williams dans l'ordre de Felipe Massa et Valtteri Bottas. En troisième ligne, du rouge, Ferrari avec donc Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Romain Grosjean, lui, nous avait habitué un petit peu à mieux sur les derniers Grands Prix. Il n'est que 12e sur sa Lotus pour le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne demain à Silverstone. Louis, tu as rencontré Romain juste après ses essais. On l'écoute.
On est malheureusement à peu près là où on pensait qu'on serait en qualification. C'est que depuis hier, on a vu que notre performance était un petit peu moins bonne que ce qu'elle a été sur les dernières courses. Donc on fait 12 et 14 en qualification. On savait que ça serait dur d'aller en Q3, donc on n'en est pas loin. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on voulait. On essaye toujours d'aller chercher le meilleur et de marquer des points. C'est important pour l'équipe, pour le championnat constructeur. On a perdu la 5e place en Autriche pour Force India. Les deux Force India sont devant nous ce week-end, donc faudra essayer de rattraper ça en course et revenir aux avant-postes.
Voilà, Romain Grosjean. Louis, demain du côté Silverstone, température annoncée, c'est quoi ?
Eh ben, c'est à peu près comme aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu moins de 25 degrés, ce qui donne, s'il y a du soleil, environ 40 degrés sur la piste. C'était le cas tout à l'heure pendant les qualifications. Il ne devrait pas y avoir de pluie, mais on est à l'abri de rien, on est en Angleterre, messieurs.
Dans le jardin anglais, justement, le jardin
voilà,
de Hamilton.
Eh ben, on suivra ça demain avec vous, messieurs, 14h sur RMC, le Grand Prix de Grande-Bretagne, à suivre en intégralité.
RMC, les experts F1.
Allez, 18h39 sur RMC, on va retourner du côté du stade Gerland à Lyon pour le jubilé. Sébastien Chabal, Lionel Nallet, on avait Sébastien Chabal il y a quelques minutes avec nous, qui a dû stopper un petit peu prématurément ce jubilé, en tout cas sur le terrain. Il pense qu'il s'est rompu les ligaments croisés. Mais Edouard G, tu es encore avec quelqu'un qui va être très occupé.
Exactement, Philippe Saint-André, le sélectionneur du 15 de France. Merci Philippe d'être avec nous sur RMC lors de ce jubilé Chabal. Alors, l'œil technique sur ce jubilé pour débuter.
Non, mais c'est toujours très sympa de voir des matchs comme ça parce qu'il y en a de moins en moins dans un rugby professionnel. En plus, je crois qu'aujourd'hui, on célèbre deux grands serviteurs du rugby français, Lionel Nallet, Sébastien Chabal, deux monstres du rugby, deux mecs en plus de la région Rhône-Alpes. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est leur fête et c'est une belle journée sous un beau soleil, en plus avec quand même beaucoup de personnes au stade.
Un moment de détente pour vous avant, ça y est, après le compte à rebours de la Coupe du Monde commence.
Oui, c'est bien pour nous. Voilà, c'est le dernier jour de vacances. Demain on sera à Marcoussis. Donc là, on est 10, 12 personnes de mon staff, tous pour fêter Sébastien. Et puis demain, on part au CNR à Marcoussis pour le premier stage de préparation qui va commencer le 6 juillet, où on va avoir un bloc de 20 jours avec le groupe France.
Alors le programme, en quelques mots, qu'est-ce qu'on vous allez faire dans ce bloc du mois de juillet là?
Au début, ça va être quand même beaucoup plus accentué sur le travail physique, donc beaucoup de travail physique, 70% de physique, un petit peu de rugby plus sur de la technique individuelle, et puis ce qui va être important aussi, c'est la cohésion du groupe. Donc on va faire aussi des activités extra rugby, et puis surtout ça va être important de se retrouver, voilà, les 36 joueurs pour une belle préparation avant de préparer un événement exceptionnel.
Alors vous prenez un petit peu de hauteur, Tine, les montagnes, la Savoie, c'est quel objectif quand on prend de l'altitude comme ça?
Bah, l'objectif d'abord, c'est de, on va d'abord être à Marcoussis. Après, c'est vrai qu'on a un stage important à Tignes où on va énormément travailler le physique. En plus, bon, c'est une altitude idéale pour pouvoir bien travailler, bien bosser et surtout pour que nos joueurs soient bien au mois de septembre, octobre, ce qui est l'objectif en vue de la Coupe du Monde.
Merci Philippe. Ben voilà, on va le laisser pour ce moment de détente là au jubilé Chabal. Donc, vous l'avez compris, un petit peu de temps aujourd'hui et ensuite les choses sérieuses, direction la Coupe du Monde. Merci Philippe.
Mais merci Philippe Saint-André, à tout à l'heure. Edouard G évidemment pour la suite de ce jubilé Chabal Nallet avant de partir au Stade de France pour l'athlétisme. Dans quelques instants, direction Vichy, l'Open de France de natation.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h46, dans un peu plus de 15 minutes, on retournera du côté d'Utrecht, aux Pays-Bas, retrouver notre Dream Team pour revenir sur cette première étape. Si vous avez des questions à poser à notre Dream Team RMC Sport, Cyril Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, vous avez le hashtag RMC Live ou bien sûr le 32-16, appelez-nous, n'hésitez pas. Dans quelques instants, on va partir du côté du Stade de France pour le meeting Areva d'athlétisme avec du beau monde, avec Renaud Lavillenie, avec Asafa Powell, avec Pascal Martineau Lagarde. Mais d'abord, on va partir du côté de Vichy, l'Open de France de natation cet après-midi avec du beau monde dans le bassin.
RMC France Olympique.
Et on retrouve à Vichy Julien Richard. Salut Julien.
Salut Martial, salut à tous.
Alors Julien, dans quelques instants, on va voir un petit affrontement franco-français assez intéressant.
Du beau monde effectivement dans ce bassin de Vichy, sous une chaleur écrasante. Alors je suis pas très original, je suis désolé, mais je vous le confirme, et ça a quand même des incidences sur les performances, même si vous allez me dire ils sont dans l'eau, donc ils ne craignent pas la chaleur, mais quand même, ils sont un peu mous, du coup ils ont un peu de mal à se mettre dans le truc. Je vous cache pas que c'est un peu le cas de tous les spectateurs ici. Du beau monde parce que derrière le plot, il y a Camille Lacour, Lindo numéro 3, et Jérémy Stravius, Lindo numéro 5. Ça, c'est notre
classique. Hein.
100 mètres d'eau. Hein.
C'est notre PSG-OM de la natation, effectivement, le 100 mètres d'eau. La finale avec un duel que l'on suit depuis 2011. Vous savez, vous avez terminé ex aequo premier au championnat du monde de Shanghai. On baisse la voix parce que le départ est imminent de cette finale donc du 100 mètres d'eau et on est vraiment à 2,50 mètres des plots. Voilà qui est fait. Le départ est donné avec le meilleur chrono ce matin pour Arkady Vyatchanin qui est russe, enfin qui était russe. Il a une situation particulière. Il est apatride et pour l'instant il va bientôt devenir serbe, mais pas encore. Ce sera en vue des Jeux de Rio. Et pour l'instant, il ne peut disputer que des compétitions type Open de Vichy ici pour réaliser quelques compétitions. Le départ donc est le premier 50 mètres, le passage en tête pour Vyatchanin, donc le russe. Les Français sont un petit peu en retrait. Ligne de numéro 3 en troisième position pour Camille Lacour. Ligne de numéro 5 en quatrième position pour Jérémy Stravius. Elle est la deuxième longueur de ce 100 mètres d'eau. Le russe est en tête pour l'instant. Hein. Le retour de Camille Lacour qui est collé à lui, Jérémy Stravius est un peu en retrait dans cette finale. Il revient Camille Lacour face à Vyatchanin. Lacour va s'imposer très certainement. Ce sera très serré. Victoire de Vyatchanin devant Camille Lacour en 54 secondes 40 centièmes pour le Marseillais et quatrième place pour Jérémy Stravius en 55 secondes et 18 centièmes. Non, troisième place, pardon. Je suis désolé, les conditions sont un peu compliquées hein, pour vous commenter ces courses. 54 secondes 30 80 centièmes, troisième place pour Jérémy Stravius. Donc le podium, Vyatchanin, Lacour et Stravius.
Et juste, Julien, on a eu Florent Manaudou tout à l'heure dans le bassin. Il a été battu lui aussi. Hein.
Battu lui aussi, troisième position, battu par Andrei Govorov, l'Ukrainien sur 50 mètres papillon en 23 secondes 37 centièmes, devant César Cielo, 23 secondes 44 centièmes. Et donc Florent Manaudou, troisième en 23 secondes 45 centièmes, à 1 centième du Brésilien César Cielo. Ces deux-là, on les retrouvera pour encore un duel demain sur le 50 mètres nage libre, où on a donc les deux derniers champions olympiques de la distance. Ça s'annonce assez savoureux. Il faut préciser que c'est une période, on est à un mois des championnats du monde qui auront lieu à Kazan à partir du 2 août prochain, et que donc c'est la fin de la période, la grosse période de travail. Ils vont commencer à réduire le kilométrage, ce qu'on appelle l'affûtage, et donc à se préparer véritablement pour les mondiaux. Donc c'est une dernière répétition, mais dans des conditions de fatigue assez prononcées pour tous les nageurs de l'équipe de France.
Avec toutes les finales de Kazan, tu en parlais tout à l'heure, qui seront en direct à suivre sur RMC. Merci beaucoup, Julien. Richard, on suivra aussi cet été, mais ce sera un petit peu plus tard, du 22 au 30 août, les championnats du monde d'athlétisme. Et de l'athlète, il y en a ce soir sur RMC avec le meeting Areva au Stade de France. On va y aller tout de suite retrouver François-Xavier de Châteaufort et Marie Zévan GP. Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir, bonsoir, Martial.
Bonsoir.
Alors, Usain Bolt n'est pas là ce soir, non. Mais il y a du beau monde.
Il y a du beau monde, effectivement.
Et on attend notamment un certain Renaud Lavillenie au saut à la perche. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ce soir avec ces conditions?
Tout est possible, tout est possible. Alors bien sûr, on attend toujours à chaque fois beaucoup de Renaud Lavillenie. Tout est possible, mais il y a quand même certaines conditions, Maryse. Et c'est vrai que la météo ce soir est très importante. On le sait, il fait très chaud, très lourd.
Tout à fait.
Le vent, on va voir, on va surveiller ça de très près parce que c'est une condition qui tient beaucoup à cœur de Renaud.
Alors ce qui tombe bien, c'est qu'il n'y a pas de vent, donc on est dans pour une cocotte minute, c'est complètement étouffant. C'est vrai que le Stade de France n'est pas...
Ne sois pas pessimiste, Fix.
Non, mais c'est vrai que le Stade de France n'est pas la cocotte idéale en général pour le saut à la perche. C'est un endroit où souvent les vents sont tourbillonnants. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vent, on est juste totalement... on est trempé tellement il fait chaud, ça sera plus compliqué pour le demi-fond, mais ça devrait être mieux pour le saut à la perche. Et puis pour pousser Renaud dans ses retranchements, il y a quand même deux garçons qui en ce moment marchent très très fort, puisque Raphaël Holtzepe et Thiago Silva Braz. Alors c'est pas le même Thiago Silva que celui qui joue fort bien au foot, mais celui-là saute très bien à la perche, viennent de battre leur record personnel. En tout cas, Thiago Silva a sauté 5m92, c'est le record du Brésil, et Raphaël Holtzepe aussi, et ça c'était il y a quelques jours. Donc ça va peut-être le pousser dans ses retranchements, lui qui aimerait bien sauter pour la première fois 6m ici au Stade de France, parce que c'est un stade où il a toujours remporté ses concours, enfin ça lui réussit très très bien, mais il n'a jamais franchi cette barre de 6 mètres devant son public.
Effectivement, Renaud qui reste quand même sur 6 victoires consécutives ici au Stade de France, c'est tout simplement considérable. Et les 6 mètres dont tu parles, bien sûr, Maryse, ne sont pas sans nous rappeler le record du meeting de Paris de Sergueï Boubka, établi il y a 30 ans, quasiment jour pour jour.
Un record qui tient toujours, puisque c'est le record du meeting.
Alors, c'était bien sûr au stade Jean Bouin, voilà. Mais c'est le meeting de Paris, puisque à l'époque, le stade de France n'existait pas. Et donc, Renaud, bien sûr, eh bien, va se faire plaisir. Enfin, on l'espère. Il veut remporter le concours ici ce soir. Il veut battre le record de Sergueï Boubka.
Pourquoi pas 6m01, ce record de 6m.
Voilà.
6 mètres ont été réalisés trois fois dans l'histoire du meeting de Paris. Sur l'ancien stade, c'était en 1985, donc Sergueï Boubka qui franchissait pour la première fois cette barre de 6 mètres. Et puis en 1992, le 4 juin, toujours Sergueï Boubka qui saute à nouveau 6 mètres. Et en 1998, c'est Jeff Hartwig, l'Américain, qui lui aussi a atteint cette hauteur. Donc ils sont très peu, hein, seulement deux hommes dans le monde ont sauté 6 mètres au meeting de Paris.
Et personne ne l'a fait ici au Stade de France.
Eh bien, ce serait une première. Vous parliez d'adversité sur 110 mètres haies. Il y a un autre Français qui va en avoir, Pascal Martineau-Lagarde, avec là aussi dans les couloirs d'à côté, du très lourd.
Du très très lourd, effectivement. Un 110 mètres haies de folie tout à l'heure, à partir de 21h20, avec notamment, bien sûr, eh bien, les Ricains, David Oliver et Ariès Mérite qui entoureront Pascal Martineau-Lagarde. On rappelle, hein, Ariès Mérite, c'est le champion olympique, champion du monde en salle en 2012, détenteur du record du monde, qui a déjà couru très très vite cette saison. Et puis David Oliver, le champion du monde 2013, le champion US des sélections américaines pour les mondiaux, eh bien, il y a de cela quelques jours. Bref, les deux Américains sont très très présents et déjà en très grande forme.
Ah, autant dire que ce sera la course de la soirée avec le 5000 mètres féminin qui nous intéresse tout autant, mais en tant que Français un tout petit peu moins, puisque dans ce 110 mètres haies, eh bien tout simplement on aura 4 Français, donc un camp complètement explosif avec Pascal Martineau-Lagarde, donc qui est victorieux en Diamond League avec 13,06, Dimitri Bascou, Garfield Darien qui revient en très grande forme, et puis bien sûr Willem Bellossian, ce prodige, champion du monde junior, recordman du monde junior. On attend un record du meeting, on attend un très gros chrono. Attention, le record du meeting, il est placé très très haut, puisque c'est un certain Deron Robles qui détenait le record du monde, qui avait couru ici en 12 secondes 88 centièmes. Alors, le meilleur performeur mondial de la saison, puisque Pascal Martineau-Lagarde s'est fait shipper sa meilleure performance. C'est un Jamaïcain, c'est Omar McLeod. C'est pas le dernier qui reste en piste. McLeod, il a vraiment quelque chose. Mais il sera pas là. Donc,
il a pas de passeport, lui, le pauvre.
Le chrono, il l'a fait aux sélections jamaïcaines le week-end dernier.
Et on attend de le voir parce que c'est le nouveau prodige en cours. Mais c'est vrai que cette course-là, c'est vraiment une finale olympique. On n'a jamais vu une telle densité dans un 110 mètres haies avec des garçons sur les 13 secondes, avec un champion d'Europe, avec des recordman, avec des garçons qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Et parmi eux, nos perles, et vraiment l'école française sur les haies, c'est un truc phénoménal.
Et justement, Marie, puisque tu parles des perles de l'école française, l'école renommée des hurdleurs français, on rappelle que Pascal Martineau-Lagarde, Dimitri Bascou et Willem Bellossian qui seront dans la course ce soir, eh bien, c'est tout simplement le podium 100% français des derniers championnats d'Europe en salle l'hiver dernier.
C'est plus facile si tu veux quand il n'y a pas les Jamaïcains
et les Américains.
Ils étaient tous les trois en finale. Ils étaient tous les trois en finale au championnat d'Europe en salle et ils sont montés sur le podium.
C'était historique, donc il fallait le souligner.
Et il y aura aussi une tentative de record du monde et le 5000 mètres, c'est plus facile quand il n'y a pas les Éthiopiennes, parce que ce soir il y en a deux, Genzebe Dibaba et Almaz Ayana, qui vont tenter de battre le record de la grande sœur de Tirunesh Dibaba. Ce sera pas simple, on verra bien avec les conditions météo.
Parce que déjà, il y a une entente qui, à mon avis, ça va être très compliqué pour qu'elles s'entendent. Elles vont pas s'entendre, ça va pas le faire.
Elles ne s'entendront pas, elles ne se battront pas.
Mais ça risque de donner quelques étincelles dans ce 5000 féminin et pourquoi pas un record du monde à la clé. On verra ça.
L'outsider dans ce 5000 mètres, ce sera la météo, parce que bien évidemment, 38 degrés, c'est pas exactement la température idéale pour courir vite sur 5000 mètres.
Marie Isfix, on vous retrouve tout à l'heure pour suivre ce meeting à Riva du côté du Stade de France, 18h56 sur RMC. Et on va partir du côté d'Utrecht. Chose promise, chose due, retrouver Christophe Cessieux et la Dream Team. La route du Tour.
Et oui, la route du Tour, ça y est, c'est parti pour cette édition 2015 du Tour de France. La première étape, c'est terminé. On a le premier maillot jaune de ce Tour de France, Denis. C'est pas le fils de la mère Denis, mais en tous les cas, il a montré aujourd'hui qu'il était le plus rapide dans le chrono. Et puis on va revenir évidemment sur la performance énorme de Thibaut Pinot qui a damé le pion aux 4 fantastiques. On vous attend évidemment au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. L'intégral Tour de France qui continue juste après 19h.
RMC Intégral Tour.